Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fais Main, le podcast de la communauté Do It Yourself, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Juste avant de démarrer, je voulais vous glisser quelques mots sur Domestika, le partenaire du podcast pour ces 10 derniers épisodes. Saviez-vous que Domestika vient de souffler sa première bougie en France ? La plateforme de cours vidéo pour les arts créatifs, entre autres, parce qu'il y a plein de choses, a déjà publié 50 cours en français. Il publie d'ailleurs un nouveau cours en français par semaine, donc au programme, vous allez retrouver des nouveaux cours de broderie, de tricot, de patchwork, de teinture, de upcycling. Il y a plein de sujets. Et puis évidemment, il y a toujours des sujets connexes, intéressants pour les créateurs, comme le storytelling sur Instagram et la photographie argentique par exemple. Au total, ce sont plus de 2000 cours qui vous sont proposés, dans plein de langues différentes et avec des sous-titrages. Personnellement, j'ai suivi un cours sur la photo et le traitement sur Lightroom en anglais. C'était top et je me suis sentie plus à l'aise pour prendre mes photos ensuite. Ça a été le petit shoot de confiance sur ce sujet qu'il me manquait pour me lancer sereinement. Et dernière info, mais pas des moindres, il y a désormais des partenariats avec des fournisseurs de matériel de DIY qui vous permettent d'avoir des remises à la suite de l'achat de cours. Nickel, non ? De quoi continuer à créer avec un petit coup de pouce sympa. Et en parlant de coup de pouce, le code promo FAISMAIN10-2022 vous offre 10% de remise sur votre prochain cours pendant encore quelques semaines, alors n'hésitez pas. Vous retrouverez le code dans les notes de l'épisode sur votre appli de podcast, sur mon site podcastfaismain.fr ou sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour remercier l'équipe de Domestika, en particulier Karim. C'était un plaisir de travailler avec Domestika, c'était vraiment sympa. Allez, place à l'épisode du jour avec le parcours hyper passionnant d'Hélène. Peut-être la connaissez-vous déjà grâce à son blog La tête dans les idées ou grâce à ses griffographes, ses pochoirs de dessin thématiques. Hélène est une créatrice touche-à-tout, illustratrice et graphiste. Elle nous raconte comment elle en est venue à créer les griffographes et tout le cheminement qui a eu lieu jusqu'à ce qu'on puisse les acheter. Et c'était pas si simple, vous allez voir. On a beaucoup parlé de ses engagements éco-responsables et je trouve ça formidable toute l'énergie qu'elle a mis dans ses réflexions indispensables. On a parlé également de ses moments plus difficiles, mais qui n'étaient finalement pas ceux que j'aurais imaginés. Bref, un régal cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Hélène, bienvenue Bonjour. Sur le podcast Fais Main.
Merci pour ton invitation.
Avec grand plaisir. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui de dessin, de évidemment d'entrepreneuriat, parce que tu as lancé ton activité avec le griffographe il y a quoi, un an et demi ? Ça fait combien de temps maintenant ?
Alors, l'idée, je l'ai lancée sur les réseaux officiellement en fin 2020.
Ah oui, déjà ?
Ouais, déjà.
Ok, et alors comment ça t'est venu et d'où te vient ce projet? Et puis après, il y a une autre question dans ma question, c'est comment ça a commencé tout ça? Il y a plein de questions dans ma question.
Oui, ok. Alors moi, au départ, quand j'ai eu cette idée, j'étais dans un espace de coworking avec d'autres gens créatifs. Donc, j'étais dans un bain d'ébullition d'idées et c'était créativement vraiment une période qui était très riche, que j'ai adorée. Et un des coworkers a fait l'acquisition d'une machine 3D.
D'accord.
Et il a eu un jour l'idée de créer un genre de normographe pour dessiner le logo du lieu dans lequel on était, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Et ouais. j'ai vu le potentiel, je me suis dit, mais ça veut dire qu'on pourrait en gros faire des règles et des pochoirs de ce qu'on veut.
Oui, parce que le normographe, c'est ce truc orange là, enfin, dans ma tête, c'est orange.
Oui, ça, en général, ils sont orange.
Des lettres, donc pour écrire de façon normée, c'est ça, des ronds, oui. Voilà.
Bah, à la base, c'est plutôt un outil de dessin technique, donc c'est beaucoup ce qui est typographie ou ça va être des formes géométriques, vraiment dessin très technique. Okay. Et quand j'ai découvert qu'avec l'impression 3D, on pouvait faire ça, je me suis dit, ça va être potentiellement quelque chose de génial. Donc, c'est là que vraiment l'idée est née.
D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle a été ta formation initiale et ton métier précédent?
Alors, c'est marrant, ça, c'est toujours la question que je redoute. Parce que la formation, j'ai fait des études zigzag. C'est que j'aimais plein de choses et j'ai testé plein de cursus différents. Voilà, donc j'ai pas de formation, en fait, de graphiste. Mais je suis graphiste, illustratrice et créatrice. Et c'est plus, tu vois, si au tout départ de mon parcours, il y avait eu une case à cocher, créatrice do it yourself freelance, j'aurais coché. Mais ça a été un parcours, voilà, qui a pas été linéaire. Donc, je m'appelle Hélène Jourdain. Peut-être que certains me connaissent sous le pseudo La tête dans les idées, puisque j'ai un blog de do it yourself et un compte Instagram qui est attaché. J'ai 37 ans, j'habite à côté d'Auxerre, comme disent les locaux.
Exactement. Parce que bon, je rigole parce qu'en fait, je suis alors je suis pas vraiment auxerroise, mais effectivement, je viens de Lyon et donc on en rigolait avant.
Ouais, je dis Auxerre, mais j'essaie de me corriger. Voilà. Et donc je suis la créatrice de la marque et de l'objet que j'ai baptisé le Griffographe. Point de vue formation, comme je disais, j'ai pas de formation de graphiste, mais j'ai très vite, en fait, j'ai toujours été créative, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours eu un côté un peu geek, à aimer le code, tout ce qui est web, tout ce qui est photo, image, dessin, illustration, et je suis une autodidacte, en fait.
Très bien. Et donc les études que tu as faites, rien à voir avec la choucroute. En même temps, il n'y a pas d'études de do-it-yourself encore.
Hein. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'administratif, j'ai fait un peu d'art appliqué quand même. Voilà. Mais globalement, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est autodidacte. Et après, c'est via aussi les jobs que j'ai eus, voilà, où j'ai eu de la formation sur le terrain.
Tout ça, finalement, a quand même nourri un petit peu ton métier, ton activité actuelle ou...
Oui. Ah oui, non, ouais. En fait, je pense que c'est ce qui est assez marrant, c'est que j'ai beau avoir un parcours qui est hyper zigzag, tout ce que j'ai fait me sert aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, je suis un melting pot de plein de choses. Et voilà,
c'est génial.
Ouais, mais c'est un parcours qui était... Pareil, qui a été très riche et qui aujourd'hui fait que je suis très polyvalente, en fait, dans ce que je fais.
Nickel. Et alors, donc, l'idée du Griffographe, c'est ton premier gros projet ou est-ce que tu avais déjà, avant le Griffographe, tu vivais déjà de ton activité do-it-yourself, créative et...
Oui, ben, en fait, La tête dans les idées, je l'ai créée en 2010.
D'accord.
Et j'ai vécu avec, j'ai été freelance pendant 5 ans.
D'accord.
Donc, je faisais beaucoup de contenu créatif, donc pour des marques de loisirs créatifs, pour des éditeurs. Je travaillais beaucoup aussi en marque blanche et je faisais des ateliers aussi.
D'accord.
Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans.
Oui. Une petite précision, marque blanche, ça veut dire que ton nom n'apparaissait pas et en fait, tu produisais du contenu, c'était ça en l'occurrence, pour des marques créatives, mais ton nom n'apparaissait pas, quoi. C'était comme si c'était leur travail, quelque part.
C'est ça. J'ai été une boîte à idées où, en gros, on me commandait des tutoriels créatifs. En général, c'était des tutos assez enfantins parce que c'est un univers et c'est aussi comme ça que je dessine et que je crée, c'est toujours assez enfantin. Donc, j'ai bossé pour pas mal de marques comme ça.
D'accord. Et dans les projets éditoriaux aussi, c'était assez jeunesse, assez enfance
Assez, oui. Parce qu'en fait, j'ai fait, je ne sais plus, une dizaine de livres.
Et, c'est trop la classe quand tu ne sais plus combien tu en as fait.
Il y a des livres dont je suis autrice à 100%. Il y a des livres aussi collaboratifs où on était plusieurs dessus. Donc, voilà, j'ai... Et oui, c'était toujours assez enfantin. Il y a eu des livres sur les gommettes, sur les créations en papier, les créations en carton, voilà.
D'accord, ok. À chaque fois, chez des éditeurs différents ou...
Alors, j'ai été principalement aux éditions de Saxe.
D'accord, ok. Eh bien, on leur dit bonjour.
Voilà, pour 90% des livres.
D'accord, ok, très bien. Et alors, là, c'est toujours une activité que tu exerces en parallèle du projet des Griffographes. Où tu te concentres à fond Griffographe?
Alors, c'est le grand questionnement. En fait, La tête dans les idées, c'est vraiment un support qui m'a servi de vitrine, en fait, pour montrer mon travail et avoir des clients, tout simplement, avoir des missions. Et là, aujourd'hui, la tête dans les idées, je t'avoue que je ne sais plus trop quoi en faire. C'est que j'avais un job en salarié que j'ai arrêté pour me consacrer à 100% au Griffographe. Et aujourd'hui, la tête dans les idées est un peu en stand-by. Donc, j'ai entendu sur un de tes épisodes précédents où celle que tu interviewais disait « il ne faut pas laisser tomber les blogs ». Les blogs, ils peuvent encore avoir une existence. Et c'est vrai que là, je suis un petit peu… Ça fait, je pense que ça fait presque 2 ans que je n'ai rien publié dessus. Donc, le blog, voilà, stand-by. Et le compte Instagram associé, je continue à publier, mais c'est vraiment à petite dose. Et c'est les créations que je peux faire… Voilà, à titre perso, pour moi, donc il y a pas mal de découpage papier, un peu d'illustration. Mais pour l'instant, il est en zone un peu floue.
Ouais, je comprends. Mais, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, il vaut mieux les garder, ces blogs, mais en même temps, ça prend du temps. Et à la fois, créer pour Insta et poster pour Insta, ça prend aussi beaucoup de temps.
Ouais.
Mais ça prend plus de temps de créer pour le blog, puis de poster sur Insta.
Oui, et en plus... Et en plus, le blog, c'est vraiment pas ma zone de confort.
Ah ouais ?
Ouais, ouais, c'est que la rédaction, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Et voilà, donc le format blog, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, il faudrait que je réécrive des articles. Et c'est un peu dommage parce que je pense que, et il y a pas mal de gens aussi qui pensent ça autour de moi, c'est que c'est quand même un blog qui avait ou qui a encore du potentiel. Et qui, pour l'instant, est complètement au point mort. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de savoir que faire à ce niveau-là.
Oui, oui. Après, j'ai toujours tendance à penser qu'il faut aussi aller là où notre cœur est.
Oui,
notre... Enfin, tu vois, pas que la tête.
Oui, ouais, c'est sûr.
Voilà, parce que finalement, tu seras prête à trouver du temps pour écrire sur le blog, pour publier des nouveaux articles, parce que tu en as envie.
Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup de mal à me dire je vais me contraindre à écrire un article tous les mois. Et j'ai toujours énormément fonctionné au feeling et voilà. Et un
à
peu,
l'intuition.
Ouais, à l'intuition et au cœur, plus qu'au cerveau. Donc, donc, c'est vrai que là, le cœur et le cerveau, tout est sur les Griffographes. Donc, la tête dans les idées, on verra ce que ça devient.
Bon, très bien. Alors, donc, tu faisais quoi quand tu étais salariée ? Parce que donc là, tu as arrêté quand cette activité salariée pour te consacrer à temps plein sur...
Alors, l'activité salariée, je l'ai arrêtée l'été dernier.
D'accord.
Donc là, ça fait un an que j'ai arrêté pour cette nouvelle activité que sont les Griffos. Et j'étais restée 1 an et demi et c'est une société dans laquelle j'étais graphiste illustratrice.
D'accord. Okay. Ça restait voilà, dans le même domaine d'activité,
oui,
dans
oui,
ton champ
oui.
de compétences. Ok,
exactement.
Ça marche. Et puis donc, tu as déménagé... En
oui.
fin d'année, si je dis pas
exactement.
De bêtises, ou la rentrée, c'est ça.
Ouais, c'était fin d'année dernière. Arrivée en Bourgogne, nouveau bureau.
Voilà, on suit l'aménagement sur ton compte. J'ai pas fait gaffe si c'était sur Griffographe ou sur ton compte La Tête dans les Idées.
J'en ai publié un peu sur les deux. C'est.
Et alors, cette aventure des Griffos, comment donc tu nous as raconté finalement la genèse et comment a germé cette idée. Je crois que ça, enfin, avec ce que j'ai suivi sur Insta, j'ai cru comprendre que c'était pas un chemin hyper facile jusqu'à présent. Il y a eu pas mal de rebondissements, que ce soit dans la production. Je crois, est-ce que c'est ça qui t'a donné le plus de...
J'ai eu pas mal d'entraves, si bien qu'à un moment je me suis dit, mais je vais arrêter si c'est comme ça. C'est que j'avais tellement de bâtons dans les roues. Et c'est dommage parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et voilà, bon, ce qui fait que je ne l'ai pas abandonné et que je persiste. Mais j'ai eu des petits soucis au niveau administratif, pas mal de soucis aussi à la production, au réassort. Donc c'est vraiment... en fait, cette année, ça a été tellement en dents de scie. Ça a été psychologiquement assez compliqué. Parce que, par exemple, pour les problèmes de réassort, c'est d'annoncer aux gens, bon, ben, le réassort, ce sera tel mois. Et finalement, le mois passe et je me dis, ah, mais en fait, ce ne sera pas du tout maintenant. Et de redire, bah, finalement, ce sera un mois plus tard. Et de toujours décaler. Et voilà, c'était... ouais, c'est une situation pour moi qui a été très gênante. Et ça n'a pas été simple à gérer, c'est ça.
Ouais, parce que le client, donc, il a passé commande, il a payé son achat. C'était pas des précommandes.
Non. Alors, j'ai jamais eu ce genre de problème. C'est vraiment qu'à un moment donné, la boutique était vide et je n'avais plus rien à vendre. Et j'avais des messages de personnes, justement, qui voulaient acheter et qui me disaient quand est-ce que les griffons reviennent, quand est-ce que ça revient.
D'accord. Donc, c'est pas un problème de délai de livraison où il se passe des mois entre le moment où la personne a passé commande.
Non, Dieu merci déjà que à faire des annonces décalées à chaque fois sur le réassort, ça m'était trop mal. Donc, si j'avais vraiment eu un problème de livraison, ça aurait été bien plus difficile à gérer.
Oui, d'accord. Et alors, donc si on repart un petit peu en arrière, tu as cette idée au départ, donc avec la base de l'impression 3D où tu te dis, c'est génial, il y a un champ des possibles de fou, etc. Donc assez vite tu te dis tiens, je vais faire des pochoirs avec des formes d'animaux,
Ouais, c'est marrant parce que l'idée est venue très vite. Ouais. C'est que j'ai pensé pochoir, au départ j'ai pensé motif où je me suis dit j'ai rien à me faire des poids, des rayures, des plein de choses juste avec un pochoir. Et assez rapidement est venue l'idée de se mettre un petit peu en décalage par rapport aux pochoirs qu'on connaît, où le dessin est tout fait, et se dire, en fait, on peut construire des illustrations. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai commencé, je crois, par la végétation, où je me suis dit, génial, les fleurs, les arbres, après sont venus les chiens, puis les oiseaux, et une fois de toute façon que l'idée est trouvée, après, ça se déroule sur un nombre de thématiques infini, ou presque.
Donc, finalement, tu as eu très vite l'idée, et après, quelles ont été les étapes jusqu'à la commercialisation? Je crois que tu es passée par une phase de financement participatif.
Oui. Alors ça, c'est assez marrant parce que en fait, l'idée, entre le moment où je me dis je vais faire des pochoirs thématiques et le lancement, il s'est passé 2 ans. 2 ans où en gros, j'avais cette idée, mais comme j'avais plein d'autres projets, et je me dis non, mais en fait, ça intéressera personne. Ça va intéresser... peut-être des nanas comme moi, la trentaine, créatives, qui aiment bien le dessin, qui ont déjà une affinité avec ce milieu-là. Et je ne voyais pas du tout le potentiel commercial. Je me disais, en fait, ça va être quelque chose de niche. Donc, je ne voyais vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai gardé cette idée de côté. Et quand même, en ressortant ce projet régulièrement, je dessinais avec et je me dis, c'est quand même génial. C'est que moi-même, en dessinant avec, je prenais beaucoup de plaisir.
Parce que du coup, avec la machine de ton collègue du coworking, tu avais fait ce pochoir pour toi.
Oui. Mais en fait, il m'avait dit fais-moi des planches et j'imprime ce que tu veux. Donc, j'avais déjà fait une planche oiseau, une planche fleur, une planche arbre. Et voilà. Et en fait, je les avais quelque part dans mes affaires. Et quand je les ressortais, il y avait, tu sais, cette petite pétillance où je me disais oh, c'est quand même, je m'éclate avec. Donc, voilà. Mais je ne voyais pas le potentiel. Donc, je me disais non, mais ça va être un projet qui sera. Qui est pas viable en fait.
D'accord. Parce que parce que moi spontanément je me dis c'est pour les enfants, tu vois.
Ça paraît incroyable de se dire que j'ai pas vu ça. C'est
Au final.
Au final je l'ai vu, mais en fait c'est pas vraiment moi qui l'ai vu. C'est grâce à toute ma jolie communauté Instagram de la tête d'accord. dans les idées. Parce que du coup, c'est pas que je crois au potentiel, c'est que je me dis il y a quand même un truc avec cet objet. Vu qu'il me plaît autant. Et donc, je me dis, de toute façon, à un moment donné, faudra le montrer, faut en parler à quelqu'un. Donc, je me dis, je vais le mettre, publier quelque chose sur la tête dans les idées, en disant, j'ai ce projet de pochoir, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est là où tout bascule. C'est là où c'est assez dingue. C'est que je publie des images, donc des pochoirs de l'époque en impression 3D, des illustrations. Et en fait, dans la soirée, je reçois entre 300 et 400 messages.
Oui.
Mais en plus, pas juste des gens qui me disent « Ah, c'est chouette, c'est une idée sympathique, bravo !» C'est des gens qui me disent « Où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que tu les vends ?» Et j'en ai eu des centaines de gens qui voulaient acheter. Tu vois,
excellent, mais le truc dont tout le monde rêve, mais là, tu n'étais pas prête.
Ce moment, alors j'étais seule chez moi et j'avais en même temps... Tu sais, ce vertige de « Oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et à la fois, je sautais partout. Enfin, tu vois, j'étais à la fois terrorisée et surexcitée. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, maintenant?
Excellent.
Ouais, c'était fou. Et c'est marrant parce que c'est grâce du coup à tous ceux qui me suivent sur La Tête dans les Idées et l'idée du financement participatif a été aussi donnée plusieurs fois dans des messages où les gens me disaient « Ah mais fais une campagne de financement, lance-toi, vas-y !» Donc tout a commencé comme ça.
Génial. Par contre, je me souviens plus si c'était sur Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang.
C'était Ulule.
Ulule, d'accord. Ouais. Ouais. Alors, les campagnes de financement participatif, ça a la réputation d'être quand même hyper chronophage. Oui. Il faut que ce soit très bien préparé. Voilà, que ça prend du temps sur la préparation et puis après sur toute l'animation pendant la phase de la campagne.
Oui, c'est un marathon.
Ouais, c'est ça. D'accord.
Ouais, c'est vraiment un marathon. Donc ça dure de mémoire un mois.
Ouais.
Et moi j'étais au taquet, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu cette soirée avec les centaines de messages, je me suis dit ok, financement, c'est parti. Et je crois que je sais même plus combien de temps j'ai mis, mais peut-être une semaine après, le financement participatif était prêt.
Ah ouais.
Les images, les textes, enfin tout était.
T'étais vraiment à
j'étais à bloc. Mais en fait, je me suis dit là, tu tiens quelque chose, ne rate pas le coche.
Ouais.
Et si je suis là à flâner, à laisser le temps passer,
à poser des questions. Tu lances le truc pour moi après. Ouais.
C'est ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie que cette frénésie redescende. Donc, direct, j'ai lancé le financement participatif sur Ulule. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'en avais déjà fait un autre il y a quelques années qui n'avait pas fonctionné. Et du coup, c'était un peu ma hantise. Je me disais, mais là, quand même, si celui-là, il ne marche pas, ça me ferait très, très mal. Donc, je n'ai pas mis la barre trop haute.
Oui.
Parce qu'en gros, si tu n'atteins pas l'objectif que tu t'es fixé, le projet tombe à l'eau et c'est ça.
C'est tout ou rien. Tu peux pas dire bon bah après toutes les personnes qui contribuent pendant la campagne, si ça va pas au bout, tu peux quand même les recontacter pour leur.
Oui, bien sûr. Oui.
Ouais, d'accord. Ouais.
Oui, en fait, tu peux garder quand même un lien et continuer à communiquer sur la page. Après financement ou non financement, donc c'est potentiellement des gens que tu peux rattraper, mais voilà, moi j'avais pas du tout envie de me heurter à un nouvel échec.
Ouais. Donc... mais alors donc le principe c'est effectivement comme tu disais de mettre un objectif pour dire c'est en termes de chiffre d'affaires ou de volume
je crois que c'est alors de mémoire c'est à choisir, soit tu pars sur un nombre de produits vendus, soit sur une somme à atteindre.
D'accord. Oui, parce que...
Je suis pas sûre de moi, il me semble.
Ouais. L'idée, en fait, c'est de pouvoir lancer la production et donc de couvrir tes coûts de production et puis peut-être un peu annexe, parce qu'il n'y a pas que la production dans le coût d'une entreprise et d'un produit. Donc, un peu toutes ces charges annexes pour finalement lancer la machine et puis pouvoir livrer les clients qui t'achètent ton produit, donc les griffos.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le système de précommande où les gens du coup financent ton projet et si le projet fonctionne, du coup ça débloque les fonds et tu peux vraiment lancer ton produit. Donc voilà, moi c'est ce qui s'est passé et j'avais mis les contributions de mémoire. En gros, c'était une centaine de participants, je crois. J'ai vraiment mis la barre un peu basse. Et en fait, j'ai fait 400 contributions.
D'accord. Et donc, toutes les contributions... Ah non, tu avais peut-être fait des packs.
Oui, j'avais fait des packs.
C'est ça, d'accord.
Oui, c'était des packs. Alors, de mémoire, ça remonte à pas si longtemps que ça, mais de mémoire, c'est des packs de 4 que j'avais fait.
D'accord.
Si je ne me trompe pas.
Ok. Bon, donc, sacrée aventure, finalement, alors, qui est peut-être chronophage, mais toi, tu l'as faite en...
Ah oui, mais parce que en fait, ça a toujours été, c'est un peu le rêve d'une vie. C'est que
c'est
moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une marque, un produit ou quelque chose à moi. Et là, vraiment, c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps dans les placards. Et le jour où je le sors, ça explose. Donc,
il s'était passé combien de temps entre le moment où tu as ta première planche de griffo qui est imprimée 3D? Et le moment où tu la publies sur Insta et donc après, tu as ce flot de messages.
Il me semble que c'est plus de 2 ans. Donc, c'est que
moi,
j'ai eu l'idée et puis après, j'ai continué ma vie, quoi. C'est...
Ah, d'accord.
Ouais. Puis comme je te dis, je voyais pas le potentiel et je pensais que ça intéresserait pas les gens. Donc, je l'ai gardé un moment secret.
Ouais. T'as laissé mûrir.
C'est ça. Que... Et le projet qui revient sur la table une fois, deux fois, trois fois, bon, ben, au bout d'un moment, il faut que je sache, est-ce que je laisse tomber ou est-ce que j'y vais. Donc, donc là, c'est sûr, quand il y a eu le... cette fameuse soirée de lancement plus le Ulule, enfin moi je fonçais pas tête baissée, mais j'avais envie d'y aller à fond. Donc,
Oui, et effectivement pas tête baissée parce que tu avais quand même cette assurance d'avoir déjà finalement des ventes qui étaient faites quoi, avec tes précommandes sur Ulule. C'était bon quoi. Très bien. Et alors après, il s'est passé combien de temps entre le moment donc, où la campagne s'est terminée et la livraison, on va dire.
Mais ça a été assez rapide.
Ah ouais ?
Ouais, alors de mémoire, c'était un mois et demi après, quelque chose comme ça.
Donc, ah, mais donc ça veut dire que tu étais hyper prête. Hein. Parce que alors, comment tu les as fabriquées aussi ?
C'est ça, en fait, c'est la petite. La difficulté du sujet, c'est que les griffographes, les premiers, je les faisais découper en découpe laser.
D'accord.
Donc en gros, c'est des grandes planches de plastique qui sont découpées voilà, au laser. Et en termes de temps de production, ça, c'est assez rapide. C'est que le fournisseur fait ça et ça se fait vite et il n'y a pas d'investissement particulier à faire. Et voilà.
C'est une machine qu'ils ont déjà et ils règlent juste pour toi, ils configurent.
Oui,
et après...
ils règlent pour le matériau avec mes illustrations. Et voilà, donc cette production-là s'est faite rapidement. Là où ça a été plus compliqué, c'est que derrière, moi, à un moment donné, quand le Ulule s'est terminé, je me suis dit, ben, cette activité, j'ai envie d'en faire mon activité.
Ah bah oui.
J'ai pas envie que ce soit juste quelque chose de temporaire. Donc, ouais. Donc, c'est là où je me suis posé la question, forcément, des choses plus concrètes, donc du coût de production. Et en fait, il se trouve que les griffographes à faire produire en découpe laser, c'est très cher.
D'accord. Donc, tu pouvais pas poursuivre sur cette découpe laser comme tu l'avais faite pour la campagne.
Ce mode de fabrication n'était plus possible parce que pendant la campagne Ulule, j'ai été aussi contactée par des boutiques, donc des concept stores, des magasins enfants qui étaient intéressés par l'outil. Et c'est que quand tu commences à entrer un peu dans les calculs du prix de vente, de la marge du magasin, etc., etc., packaging, enfin, il y a un nombre de choses qui entrent en compte. Et au final, avec la solution, avec le mode de fabrication en découpe laser, il me restait absolument rien. C'était même pas rentable. Donc là, j'étais vraiment, c'était la croisée des chemins où je me disais, il faut que je trouve une autre manière de produire pour moins que coûteuse. Cette entreprise puisse voir le jour. Donc,
Et là, ça a été le début des problèmes
Ça a été un travail de longue haleine, disons. Bah, déjà, c'est que j'ai dû m'intéresser à cette industrie que je connais absolument pas. Donc, ça a été de passer des coups de fil à droite à gauche pour savoir comment je pouvais faire produire les griffographes. Voilà, après une fois que j'ai trouvé comment faire produire, ça a été de trouver le bon fournisseur, trouver les bons tarifs, voilà, il y a plein de choses techniques qui entrent en jeu à ce niveau-là, donc ça a été un long travail de recherche.
Oui, j'imagine, et puis ça veut dire aussi que derrière, comme tu dis, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément comme ça, un peu le monde industriel, et donc il y a quand même nécessairement une notion de quantité qui vient vite en ligne de compte.
C'est ça. Ouais, et en fait, oui, il y a une notion de quantité, et c'est là où moi je réussis à trouver cet équilibre et le mode de fabrication qui me convient. Et donc en fait, les griffographes aujourd'hui sont produits en injection plastique, donc on est vraiment sur un mode industriel.
C'est des moules.
Ouais, exactement.
Ah, et après ils injectent. Donc un moule qui a été fait sur mesure pour chaque griffographe. Et après, ils injectent du plastique dans ces moules et ça sèche.
C'est ça. Mais en fait, à la base, c'est un bloc de métal qui fait un mètre cube, enfin quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est un investissement vraiment d'outillage industriel. Et à l'intérieur de ce moule, c'est un peu comme un moule à gaufres où il y a des empreintes qui sont fabriquées, qui sont des empreintes qui correspondent aux griffographes. Donc une empreinte pour les oiseaux, une empreinte pour les chats, pour les chiens. Et voilà. Donc ça a été l'investissement et qui était relativement important, mais qui faisait que j'arrivais à avoir un coût unitaire sur mes griffographes qui, pour le coup, était rentable et permettait d'avoir une activité qui puisse fonctionner.
D'accord. Et ton statut juridique jusqu'à présent, parce que là, tu peux pas avoir ces coûts-là en auto-entreprise, en micro-entreprise.
Non, du tout. Non, non. Bah, j'ai été en micro pendant très longtemps. Et à partir du moment où j'ai investi dans cet outillage, je suis passée en société. Voilà.
Ouais, d'accord. Ok. Mm. Ça va avec quoi.
Mm. Ouais, c'est ça. Bah, quand tu te retrouves avec des TVA, des TVA mirobolantes, tu fais « Ouh là là !» Il faut repenser ce statut.
Ouais, ah ouais, d'accord. Ok, bon, bah, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans toute cette aventure depuis le début ?
Ça va paraître un peu... Ah, j'allais dire pas un peu bête, mais disons que tout l'aspect, tu vois, se lancer, créer la société, c'est des choses que j'ai fait avec facilité.
Ouais.
Mais ce qui a été le plus compliqué, c'est l'administratif, en fait. C'est que j'ai pas eu peur de me lancer,
ouais.
Mais c'est qu'après, j'ai eu des petits bâtons dans les roues. C'est que j'ai fait appel à des professionnels alors que j'aurais pas dû spécialement aller vers eux. Enfin, tu vois, il y a eu des choix comme ça. Avec le recul, maintenant, j'ai quand même beaucoup appris.
Ouais.
J'ai beaucoup appris de mes bêtises de débutante, mais parce que créer une société, pour moi, c'était... j'avais pas peur, mais c'était très flou. Je suis une bille en comptabilité, se renseigner sur les statuts juridiques, qu'est-ce qui fait quoi, enfin c'est... Ouais, ça a été... c'était pas simple.
Ouais, mais je veux bien te croire, et je te trouve pas ça bête, hein, pense qu'il y a un milliard de personnes pour lesquelles c'est exactement la même chose, mais finalement, ce côté production industrielle que tu connaissais pas du tout, c'est pas ça qui t'a...
Non, bizarrement, c'est
ouais,
pas ça.
Ouais, c'est bon.
C'est pas ça, parce que bon, une fois que tu rencontres ton fournisseur, que tu vois comment ça marche, que, bon, en fait, tu déroules le tapis, enfin, c'est... Le plus difficile, ça a été de bien s'entourer, en fait, d'être bien accompagnée. Et j'ai pas toujours fait appel aux bonnes personnes, et c'est là où j'ai perdu énormément de temps sur la création d'entreprise. J'ai fait aussi une demande de crédit. Enfin, c'est toutes ces choses. Vous voyez, c'est vraiment l'administratif qui a ralenti tout ça.
Ouais. Mais en même temps, t'as quand même fait appel aux bonnes personnes sur la partie production. Parce que trouver des fournisseurs, c'est pareil, c'est quand même un sacerdoce. Enfin, ça peut être un sacerdoce aussi en fonction de ce que tu as besoin de faire produire. Donc bon, effectivement, c'était moins facile sur la partie administrative.
Oui, c'était moins facile sur cette partie-là. Après, pour les fournisseurs, ça s'est fait de manière très rationnelle et cartésienne. J'en ai rencontré plusieurs, j'ai fait des tableaux Excel, j'ai comparé. et voilà, et j'ai trouvé le fournisseur qui me convenait.
D'accord. Et c'est un fournisseur français ou c'est...
Oui. Alors, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur. C'est que déjà, je suis contrainte de revoir mes exigences produits à la baisse parce que je suis sur un objet qui est en plastique. Et moi, c'est pas quelque chose que je souhaitais du tout à la base. Donc, je voulais absolument rester en France.
Ouais.
C'est que, bien sûr, j'aurais pu aller faire fabriquer ça en Chine... pour 4 centimes la pièce, mais ça va tellement à l'encontre de tout ce que je mets en place dans ma vie et de toutes mes valeurs que non, c'était hors de question.
Mais par contre, tu avais cette contrainte du plastique et tu as pu... Est-ce que par exemple, le plastique recyclé, c'était une possibilité ou pareil, c'était un truc où c'était pas possible ?
Alors, pour l'instant, le plastique recyclé, c'est pas possible. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien après... C'est un peu comme l'épisode sur le textile, c'est que le plastique, c'est aussi très compliqué. C'est que j'ai eu des discussions avec des spécialistes plastiques qui m'ont dit « plastique recyclé, c'est pas forcément non plus une solution idéale ». Donc voilà, après moi j'ai aussi des contraintes techniques au niveau de la fabrication où on est quand même sur des plaques qui sont très fines, où il y a vraiment beaucoup de détails, donc je peux pas travailler avec n'importe quel plastique non plus. J'ai bon espoir que tout ça évolue et que je puisse faire des griffographes en maïs ou je ne sais quel matériau un peu plus écologique. Voilà, mais en tout cas, production française, j'y tiens, j'y reste.
Et pareil pour le packaging. Donc aujourd'hui, ton packaging, il est très simple, mais il est sur mesure par rapport à tes griffos. C'est pareil, là, tu as tout fait de A à Z et pour l'imprimeur et tu n'as pas eu de soucis?
Oui, alors ça, c'est vraiment, pour l'instant, je suis seule sur ce projet, donc je fais absolument tout. le site internet, je fais les photos, je fais le contenu. Quand il y avait des dossiers de presse à faire, c'est moi. Voilà, et les packaging également. Et non, pas de soucis particuliers au niveau des packaging. Écoute, je suis plutôt dans tout ce qui est graphique, un peu dans mon domaine. Donc ouais. Voilà, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là.
D'accord, ok. Mais t'imprimes pas à toi-même par contre? Tu fais imprimer et puis après, t'as quand même le façonnage, c'est toi qui le fais pour plier et...
Non, alors ça aussi, c'est quelque chose que je souhaitais pour mon entreprise. C'est qu'étant donné que je commande quand même des gros volumes, je voulais aussi me simplifier la vie et me dire, il faut vraiment que je délègue un maximum et que j'en ai le moins possible à faire. Donc, le fabricant qui crée les griffographes a un sous-traitant qui reçoit mes packagings et qu'il les met lui-même dans les pochettes. Donc, en fait, moi, je me fais livrer le produit fini, donc les griffographes dans leurs pochettes.
Ouais, très bien. Et par contre, c'est toi qui les stocke et qui les envoie.
Oui.
D'accord.
Donc, sur ce côté-là, je suis encore seule. Seule sur tout ce qui est back-office, les envois, la logistique. Il n'y a que moi derrière. Pour le moment, j'ai bon espoir de ne pas rester seule dans cette aventure.
Ok, et donc en plus comme tu es déjà dans le statut société, ça veut dire qu'effectivement tu as plus de facilité entre guillemets, la marche n'est plus tellement haute pour effectivement ne plus être seule et pouvoir embaucher.
Oui, oui, et après ça c'est une chose qui me fait un peu peur pour le coup, où j'ai l'impression, je suis tellement novice en la matière, j'aimerais bien des fois avoir un petit ange ou un coach ou quelqu'un qui me dise à partir de quand tu embauches. Comment, qui, où est-ce que tu trouves les bonnes personnes? Et voilà, donc pour le moment, c'est zone très floue, mais ce qui est certain, c'est que j'aimerais, en tout cas dans cette aventure, avoir des gens qui m'accompagnent, que ce soit pour la rédaction, pour les photos, pour la logistique, enfin d'avoir un peu d'appui.
Ouais, 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 je comprends. Effectivement, donc ça, c'est ton prochain challenge finalement?
Oui, mais je pense que là, en fait, l'activité a été en stand-by pendant quelques mois parce que justement, j'étais sur cette transition de passage à l'injection plastique. Donc, ça a pris un certain temps, la création de la société, le crédit, tout ça. Mmh. Et alors là, je suis vraiment à la veille de la reprise. Donc, les griffographes sont de retour en septembre et je sais que ça va marcher. Je ne sais pas à quel point ça va marcher. Mais je sais que ça va fonctionner et voilà, donc ce sera, je pense, oui, le prochain challenge, c'est se dire qu'est-ce que je vais déléguer à qui et de savoir aussi, moi, quelles sont mes forces et quelle est ma valeur ajoutée, sur quelle mission, enfin voilà.
Non, mais effectivement, ce que tu peux, déléguer finalement, c'est le bon mot, pour continuer à t'éclater et peut-être... poursuivre le développement aussi. Parce que maintenant, j'imagine qu'il va falloir quand même encore gérer un peu l'opérationnel, etc. Mais derrière, en tant que chef d'entreprise aussi, l'idée, c'est que tu puisses te projeter dans l'avenir, poursuivre le développement, peut-être d'autres produits. Est-ce que tu te projettes un peu dans cette phase-là?
Ah oui, mais complètement. Alors, en termes de développement, il y a plusieurs choses. Il y a déjà au niveau... produit, c'est que, comme je le disais, c'est un outil qui peut être décliné à l'infini. Donc il y a plein de thématiques que j'ai envie de sortir, que ce soit les robots, les dinosaures, l'espace, enfin, il y a un tas de choses à faire. Après, ça peut être l'occasion aussi de faire des collaborations, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, c'est de faire des collaborations soit avec des marques, soit avec des illustratrices, pour qu'elles puissent faire leur propre griffot, je trouverais ça absolument génial.
Ouais. Et puis en plus, donc, ça te fait un levier de communication génial parce que tu sais que les créatrices, elles vont relayer ça auprès de leur communauté aussi, de leur audience.
C'est ça. Je pense que c'est des collaborations qui vont être sympas dans les deux sens. C'est que moi, ça va aussi m'apporter une richesse au niveau du produit. Et pour les illustratrices, je me dis c'est quand même sympa d'avoir un outil avec tes propres illustrations, tes propres formes à toi. Donc
c'est clair.
Ça va être un échange génial.
Ouais. Par contre, tu as quand même cette petite barrière à l'entrée, entre guillemets, qui est à chaque fois de refaire tes empreintes.
Oui.
Donc, tu as quand même cet investissement de base à faire.
Oui, c'est toujours un petit investissement Donc, bien sûr, on ne refait pas le moule entier, c'est vraiment que les empreintes
qui
correspondent à chaque griffon. Donc, c'est un petit investissement, mais je pense qu'il sera assez vite amorti. Donc,
ça peut te permettre quand même d'élargir assez rapidement les thématiques.
Oui, donc il y a le développement thématique et ensuite il y a le développement réseau aussi. C'est que j'ai été... Bon, il y a les particuliers, forcément, ça fonctionne très bien. J'ai été contactée par des boutiques, donc... Ça va être aussi un réseau à développer. Tout ce qui est école aussi. J'ai eu beaucoup de demandes d'institutrices qui trouvent l'outil super pour occuper les enfants. Donc, c'est des réseaux comme ça à distribuer. Et après, bien au-delà, se déroule l'international. Là, je ne suis pas encore psychologiquement prête, mais je pense que ça viendra assez rapidement.
Et là, tes études d'anglais te serviront.
Oui, l'anglais servira, mais je t'avoue que pour moi, j'ai l'impression que ça me paraît très lointain, très immense, très grand, très compliqué, alors que pas forcément, mais je pense que je m'en fais toute une montagne de passer à l'international. Peut-être que là, ça peut être un sujet sur lequel je pourrais faire intervenir quelqu'un.
Oui. C'est-à-dire, de ma perception, c'est que c'est l'étape encore, c'est pas la prochaine, c'est peut-être la suivante ou encore la suivante. Donc c'est pour ça que peut-être que tu t'en fais une montagne parce que effectivement
c'est
là,
trop loin.
Ouais, c'est trop loin. Il y a d'autres étapes avant quoi, d'autres pas à franchir. Ouais.
C'est ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est plus proche, comme déjà avoir un collaborateur ou des collaboratrices, ça. C'est l'étape d'après, mais c'est moins effrayant que l'international. Mais oui, chaque chose en son temps.
Ouais. Bon, c'est génial en tout cas. Et donc là, tu es pas loin d'Auxerre, on disait. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu travailles chez toi.
Mais oui.
Ça veut dire que quand tu vas embaucher, il va falloir prendre un local. Ça, c'est pareil, c'est des choses auxquelles tu réfléchis déjà?
Alors, je travaille de chez moi. J'ai refait mon bureau il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on peut tenir... aller maximum à 3 dedans.
D'accord.
Après, j'ai la chance d'être dans une grande maison de campagne où si vraiment il y a des ajustements à faire et s'il faut que je change de pièce pour avoir plus grand, je pourrais.
D'accord. Mais parce que ça ne te dérange pas que finalement tes bureaux soient chez toi?
Du tout. Non, ça ne me dérange pas. Non, j'aime bien au contraire. Après, c'est quelque chose à étudier. En fait, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, cette collaboration. Est-ce que je prends quelqu'un en salarié? Je peux aussi faire appel à des freelances. Voilà, donc c'est flou. C'est l'avenir prochain, mais je ne saurais pas en dire plus.
Ouais, très bien. Et donc là, on enregistre, on est mi-août. La rentrée en septembre, tu vas pouvoir relancer les ventes. Donc... ce que je trouve finalement génial, c'est cette assurance, mais assurance dans le bon terme, hein, c'est pas de l'arrogance ou quoi que ce soit, que tu sais que ton produit est demandé. Et ça, c'est juste du pain béni finalement, parce que c'est grâce à la communauté en plus que tu as construite au préalable qui finalement aujourd'hui t'apporte ces ventes sur le Griffo. C'est excellent quoi.
Oui, non mais je vais pas me plaindre de ma situation. Non, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. L'enthousiasme qu'il y a autour de ce produit, moi j'en suis trop contente. C'est que déjà c'est un objet à la base que j'aime m'en servir et j'adore créer cet univers graphique, toutes ces couleurs, les illustrations, les échanges aussi avec toutes les personnes de la communauté. En fait ce qui est fantastique, c'est que c'est une communauté qui est hyper bienveillante, qui est pétillante, qui est colorée. Enfin, on est quand même dans un loisir, donc c'est vraiment que du bonheur, voilà.
C'est génial. Et alors, au final, donc c'est les enfants ou les adultes qui s'éclatent le plus avec?
C'est les deux. J'ai beaucoup de retours de parents qui disent qu'ils achètent ça pour leurs enfants, mais qu'ils ont tendance quand même à les shipper assez souvent.
Assez vite.
Ouais. Ou sinon, c'est les parents qui achètent pour eux, mais au final, les enfants les prennent et ils se disent « pas touche ». C'est à moi. Non, donc les deux, et c'est ça qui est formidable, c'est que ça parle à tout le monde.
Ouais, mais c'est un atout précieux dans la définition d'un produit finalement. Toi, quelque part, je sais pas si les personnes qui nous écoutent se disent « j'aimerais bien créer aussi une activité, mais je sais pas encore quoi », et des fois, tu sais, justement, si tu sais pas encore quoi, tu te dis « bon, alors, tu vois, par exemple, si je devais créer une activité, souvent je me dis, ah bah alors, je voudrais pas que ce soit, par exemple, dans le tourisme, parce que, bah, avec le Covid, par exemple, tu t'es vite aperçu que c'était quand même hyper compliqué quand tout était fermé, bouclé, etc. De l'alimentaire, bah, l'alimentaire, c'est pareil, il y a plein de contraintes évidemment dans tout ce qui est hygiène, et puis sur les dates limites de conservation, etc., de péremption. Enfin, tu vois, et donc souvent, moi, je me dis, bah tiens, non, je ferai pas ça parce qu'il y a telle raison, ou bah, toi, j'irai pas travailler chez Total parce que c'est juste psychologiquement impossible, écologiquement impossible, etc. Donc, je me décoche des choses comme ça. Et tu pourrais te dire aussi, bon, bah, il faudrait que ce soit un produit, finalement, qui soit le moins niche possible, et donc qui soit à la fois adapté aux parents, aux enfants, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, finalement. Tu vois, et là, finalement, ton produit, il coche tout ça, quoi. Donc, c'est top.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt... en fait, le produit est... J'avais l'idée produit, mais j'avais pas. En fait, si j'étais partie de voilà, juste comme tu disais, en sectorisant un peu, en disant bah, je veux faire pour les enfants ou je veux faire pour les adultes dans tel secteur d'activité, je pense que j'aurais jamais trouvé le produit. C'est plutôt voilà.
Le produit qui est venu à toi, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et puis après l'application sur le marché ou le oui la mise en marché finalement qui s'est qui a été un peu soufflé par ta communauté, mais bon, c'est la communauté qui te ressemble aussi et que tu as construite au fur et à mesure.
C'est ça. Et en fait, je dois beaucoup à cette communauté parce que au-delà de voilà d'avoir un peu révélé cet objet que je voyais pas aussi, enfin avec autant de potentiel, c'est que la communauté m'aiguille sur beaucoup de choses. Quand j'ai des questions, des interrogations, que je ne sais pas trop dans quel sens aller, en général, les réponses, elles sont... c'est jamais très mitigé, en fait, les réponses sur les réseaux. Et c'est génial. Mais par exemple, tu vois, le griffographe, au départ, je voulais le faire en craft. Je voulais que ce soit du carton condensé parce que je me disais, j'ai envie que ce soit recyclable, que ce soit écologique, j'ai envie d'aller vers quelque chose voilà, de le plus éco-responsable possible. Et j'ai posé du coup la question sur les réseaux en disant qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est le matériau ? Est-ce que c'est le Made in France ? Parce que j'étais un peu perdue. Et en fait, très rapidement, l'idée du craft, ils ont fait, mais ils m'ont dit, on n'en veut pas. Parce que ça va être un usage enfant, qui vont le salir, qui vont le maltraiter. Donc on veut que ce soit lavable et incassable. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Mais ça paraissait. Tellement évident, et en fait, quand les gens me disent ça, j'ai dit, ah oui, d'accord, donc là, il faut que je repense tout ce que je pensais faire, donc ce ne sera pas du tout en craft, on va partir sur autre chose. Mais tu vois, c'est vraiment, en fait, quelque part, je pense que la communauté, c'est le collaborateur que je n'ai pas dans mon bureau, tu vois, quand il y a des doutes et des questions, je trouve que c'est vraiment hyper, hyper intéressant de se tourner directement vers les gens concernés.
Ouais, mais c'est génial. Mais c'est aussi grâce à la communauté que tu as construite. En fait, c'est excellent parce qu'on voit vraiment l'apport finalement de ton audience existante dans ton projet. Enfin, je trouve ça génial. Parce que c'est vraiment finalement de la co-création. Alors évidemment, il y a plus de ton côté, hein, mais...
Ouais, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que en fait, sans la communauté de la tête dans les idées, je pense que ce projet n'aurait pas eu l'élan qu'il a eu. C'est que c'est une communauté, alors je ne sais pas, à l'époque, enfin, je dois être à 8000 followers. Si j'en avais eu 200, j'aurais eu peut-être 30 messages de gens qui veulent en acheter. Je ne me serais peut-être pas dit « je tiens quelque chose ». Donc voilà, c'est un cercle vertueux. C'est que j'ai créé une communauté qui me le rend bien à un moment donné. Donc,
c'est génial. Non, mais c'est super bien parce que en fait, pendant des années, tu as produit du contenu par passion, finalement, sur la base de création que tu adorais faire, etc. Et puis, finalement, un jour, il y a ce projet qui émerge. Et donc, alors même si tu tirais déjà un peu des revenus, hein, c'est ça, de ton blog, etc., de cette activité-là, sous ce nom de projet, sous cette marque-là, donc ça donne une autre dimension et Donc c'est génial. Moi j'adore ce genre d'histoire, c'est pour ça que j'adore faire le podcast.
Ouais, je comprends, mais moi j'aime beaucoup aussi écouter les histoires des uns et des autres, et c'est toujours c'est tellement étrange de se dire que des fois ça tient à une rencontre, à quelque chose de d'infime, mais qui au final se transforme en un projet de vie. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant.
Ouais. J'aime beaucoup le fait que tu finisses en disant que ça rentre dans ton projet de vie. Parce que finalement, oui. c'est ça, c'est que en fait, ça peut tout remettre en question, et ça vient soit définir un projet de vie que tu... Enfin, tu vois, parce que... Enfin, généralement, quand t'as 20 ans, tu te dis pas, alors mon projet de vie, c'est ça. C'est, je trouve que ça vient un peu avec le temps, cette histoire. Et donc, finalement, là, ça se dessine en même temps, quoi.
Ouais, c'est ça, mais en fait, je trouve que c'est un parcours qui s'est affiné au fil du temps. C'est que j'étais, comme tu dis, dans la création au sens large, et au final, il y a eu cette idée. Et en fait, je trouve que plus j'avance dans ce projet et dans la vie, plus je vais vers ce qui me correspond aussi. C'est autant sur le format de l'entreprise que sur le sujet. C'est que je suis sur une thématique qui me plaît énormément, qui est colorée, qui est joyeuse, et travailler avec ces conditions-là, c'est quelque chose que j'adore. Donc
ouais, mais non, c'est trop bien. Et après, est-ce que tu imagines déjà dans le développement de ton entreprise d'autres produits que le Grifo, ou est-ce que tu as déjà largement à faire, comme tu disais, avec les différentes étapes, et dont l'international à un moment donné?
Alors, deux choses. La communauté est encore là, très présente et très proactive. Donc, j'avais fait un sondage il n'y a pas longtemps pour savoir ce qui pouvait intéresser les gens, parce que je m'étais dit, justement, moi, j'adore tout ce qui est papeterie. Mais j'adore ça, j'adore les motifs. Donc, je m'étais dit, ah, j'aimerais tellement faire des posters, faire des carnets, enfin, tu vois, faire plein de produits dérivés. Et là, c'est là que la communauté est extra. C'est que je lance cette idée en disant, voilà, des cartes postales, des posters, des... Et en fait, ça n'a pas fonctionné. C'est que les gens ont dit, bah non, en fait, nous, on veut dessiner, on veut pas d'une illustration toute faite, on veut dessiner. Et les produits dérivés qui pourraient fonctionner, en fait, c'est des produits dérivés qui sont pratiques et fonctionnels. Donc, ça va être un carnet, une pochette pour ranger les griffons, des crayons, ce genre de choses. Et donc, tu vois, encore une fois, je partais sur une piste en me disant, oh, j'ai trop envie de faire ça va être génial. Et là, tu poses la question, on te dit « Non, peut-être pas. » Et je dis « Ah, bon, bah non, en effet. On va partir sur autre chose. » Et c'est marrant parce que c'est des réflexions où, tu vois, seule dans mon bureau, ça ne me paraît pas évident. Je me dis « Potentiellement, ça peut marcher. » Et en fait, le retour est immédiat et catégorique. C'est « Non, on veut dessiner, on veut être maître de ça, mais on veut bien des produits dérivés utiles. »
Ouais, génial. Ouais. Ça me fait penser... à une remarque que je me faisais ce matin, et donc en intro tu m'as fait remarquer que je portais le t-shirt de la Maison Naïve que j'ai eu en invité assez récemment, et d'ailleurs on a un nouvel enregistrement prévu dans quelques semaines. La Maison Naïve, donc la base c'est de la création, l'édition de tissus, donc des tissus originaux. Et en fait, elles ont complété leur gamme avec des accessoires de déco et aussi un t-shirt, donc qui est déjà fait, déjà cousu, parce que donc les tissus, il y a quand même largement, il sera largement acheté par des personnes qui veulent faire des vêtements, leur coudre leurs propres vêtements. Et en fait, le t-shirt, il est déjà cousu avec finalement une illustration et la marque La Maison Naïve. Et ce que je trouve génial, c'est que en fait, ça pose aussi la marque finalement. Et donc en plus, et ce qui est rigolo, c'est que donc on est en visio, et donc tu l'as vu et tu l'as reconnu. Oui. Donc tu vois, et ça me fait penser à ça, parce que je me dis, bah finalement, c'est des produits où c'est peut-être pas le produit le plus évident, tu vois, auquel on aurait pensé, parce que les maisons qui éditent du tissu aujourd'hui, il y en a plein, mais elles éditent pas aussi des vêtements. Finalement, ouais, elles ça, ont pas ça. Une... Mmh. Alors là, il n'y a pas une gamme de prêt-à-porter, hein, c'est juste un t-shirt. Mais finalement, tu vois, on sort un peu du cadre, et là, c'est rigolo, parce que t'as voulu sortir un peu du cadre en proposant d'autres choses, et finalement... Comme tu as écouté, tu as sondé ta communauté, et ta communauté t'a dit, bon, bah, non. Pas tout de suite ou pas ça. Mais en revanche, il y a ça qu'on aimerait bien. Et enfin.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. C'est pareil. Moi, j'aimerais avoir une baguette magique ou un petit ange sur mon épaule qui me dise non, ça fonctionnera. Ça ne fonctionnera pas. c'est compliqué de savoir où aller, d'avoir une vision globale et de se dire. Enfin, voilà, je pense que moi, je suis plus créative que businesswoman, donc c'est pas forcément des choses qui paraissent évidentes et qu'on voit et que donc c'est pour ça que oui, je suis très reconnaissante envers cette communauté qui m'aiguille finalement.
Oui, non, mais c'est excellent. Comme quoi, finalement, les différents cas existent aussi. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du t-shirt, peut-être que si on avait demandé Lucille et Fanny si elles avaient demandé à leur communauté respective, bah tiens, si je lance une activité de tissu, de vente de tissu au maître, est-ce que vous achèteriez un t-shirt déjà cousu? Bah, ça se trouve, on leur aurait dit non, peut-être, tu vois.
C'est possible. Et c'est vrai que c'est là où intervient un peu le côté moins fun de l'entreprise, mais c'est que je pourrais me dire, je vais le faire quand même, mais ouais. C'est qu'après, il y a aussi une question d'investissement et de stock, et voilà, c'est que j'ai pas envie de me retrouver avec 10 000 posters sur les bras. Enfin,
non, mais c'est...
Faire les choses avec pragmatisme.
Exactement, et avec, effectivement, par souci de rentabilité ou par souci économique et puis écologique aussi. Éco-responsable, de se dire je vais pas lancer une production comme tu dis et 10 000 posters si tu sais que si tu sais, on sait jamais vraiment, mais si tu pressens que ça va peut-être pas marcher, mais ça veut dire que c'est aussi peut-être qu'à un moment donné un produit que tu sortiras qui te fera particulièrement plaisir et qui sera peut-être moins demandé, mais voilà, où tu te seras éclaté, quoi.
Ça empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre,
bien sûr.
Après voilà, faut voir dans quelle mesure. Et c'est assez marrant parce que j'avais été en contact avec une boutique qui voulait être revendeur des griffographes. Et très vite, moi, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse des PLV, que je fasse des flyers, que je fasse, tu vois, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le commerce, voilà, ou dans la grande distrib ou ce genre de choses. Et en fait, la boutique, ça m'a vraiment étonnée parce qu'elle m'a dit, ah non, mais par contre, moins il y a de choses avec, mieux c'est. C'est que nous, on aime le produit et elle me dit, on est aussi dans une démarche où on n'a pas envie d'avoir tout ça autour. C'est pas utile. C'est que le produit, on va l'accompagner en magasin. Donc, et là, je me suis dit, j'étais vraiment étonnée. Ouais. C'est que j'étais, tu sais, un peu en mode bonne élève de, alors, tu vas être en boutique, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je vois
et
bien.
En fait, et en fait, non, je pense que les gens ont aussi envie d'aller vers quelque chose de plus minimaliste et de plus simple et voilà, de pas avoir ce surplus de production autour du produit.
Ouais, très bien. Et alors justement, c'est parfait parce que c'était une question sur laquelle je voulais revenir. Donc l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est un engagement que tu as déjà depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, évidemment, parce qu'on est en plein dans le caca. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi ou c'est plus récent? Et comment tu as voulu le diffuser dans ton entreprise?
Ouais, alors c'est quelque chose que je pense j'ai quand même toujours eu. Après, bien sûr, dans les gestes et les actions au quotidien, c'est quelque chose qui évolue, qui change et sur lequel on essaie tous de faire au mieux et de progresser. Mais moi, je suis très nature, j'ai grandi à la campagne, donc voilà, et je me rends bien compte de la situation. Et c'est là où c'est aussi assez difficile, c'est que ça m'embête vraiment d'être sur un produit plastique. C'est quelque chose qui me gêne. Et en même temps, quand tu pèses dans la balance entre faire cet outil et renoncer à ce projet, à toute la vie qui va autour, à tout ce que ça m'apporte, c'est un peu délicat. Donc voilà,
je pense que... Parce que ça apporte aux
clients. Oui, c'est ça aussi. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est pour me rassurer, mais ça reste un objet... on n'est pas sur une bouteille d'eau en plastique non plus, c'est que c'est un objet que tu gardes des années, qui est incassable, et voilà, donc certes, c'est pas l'idéal. Après, je pense que pour tout ce qui est production, notamment plastique, je pense que c'est vraiment le matériau à choisir quand on n'a pas d'autre solution. c'est qu'il y a plein de, il y a plein de, voilà, d'aberrations au niveau packaging où on pourrait très bien se passer de plastique. Là, pour le moment, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution que ce matériau. Donc voilà, après, comme je disais, peut-être que l'industrie évoluera aussi, peut-être qu'à un moment donné, je passerai sur un autre type de plastique. Voilà, il y aura sûrement des grands changements à ce niveau-là et heureusement, ouais, je l'espère.
Oui, oui, je pense aussi, technologiquement, on avance quand même assez vite, donc l'avenir nous le dira. Et sur les autres aspects, donc on parlait du packaging, donc l'emballage qui est lui fait en carton. Après, quand tu envoies, est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses où pareil, tu t'es dit, ah ouais, bah là, je pourrais faire un super emballage avec ci, ça, mais non, je veux pas de sur-emballage, d'emballage qui de toute façon va se retrouver à la poubelle dans 3 secondes après avoir été réceptionné. Oui.
Non, point de vue emballage, je suis sur du minimalisme. Et ça me fait un peu culpabiliser aussi parce que je me dis, je perds peut-être ce petit truc, tu sais, quand tu ouvres ta boîte et qu'il y a un joli papier, un joli ruban, et tu vois, ce plaisir de découvrir. Et voilà, et on sait que le packaging, c'est aussi hyper important. Mais j'ai fait le choix de partir sur du très simple. Donc, les griffos sont envoyés dans une enveloppe avec un fly ou un stickers ou un petit truc en plus. Mais ça s'arrête là. J'ai pas fait de folie en fioriture autour de ça.
Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, alors en plus, bon, perso, c'est pas ma came, mais les unboxing et tout ça, les vidéos d'unboxing, je pense que ça marche pour plein de plein de personnes. Il y a plein de gens qui en regardent des vidéos, donc c'est que ça doit leur faire plaisir. Et c'est vrai que c'est très agréable de recevoir un joli paquet. Et en même temps, quand tu reçois un paquet e-commerce, enfin un colis e-commerce, et que le contenant, le colis, la boîte, le carton, je vais y arriver, n'est pas adapté au format de ce que tu reçois, enfin perso, ça me met les nerfs, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc,
Moi aussi.
Tu vois, cette sobriété...
Quand tu reçois un carton géant avec un produit noyé au milieu, mais... Pourquoi ?
Et plein de calage ou même pas de calage. Non, mais voilà. Ouais. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que si cette sobriété, elle est choisie et elle est sans être justifiée, mais elle est expliquée, bah, en fait, on va dans le bon sens. On va dans le sens de l'histoire. Bon, après, voilà, je ne sais pas. Oui. Vous qui écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais...
après, je trouve ça sympa d'avoir un petit cadeau en plus, tu vois, parce que je pense que je culpabiliserais de me dire... J'ai juste la pochette dans l'enveloppe et en gros, tu as commandé ton produit, voilà ton produit, tu vois. Ouais. Je trouve ça un petit peu brutal, donc j'aime bien mettre quand même un petit truc avec, voilà, un petit goodies.
Oui, le petit goodies et puis après, le petit mot manuscrit. Ou manuscrit, mais parce qu'évidemment, ça, après, en fonction des volumes de commandes, j'imagine bien, c'est compliqué d'écrire à la main. Salut Mélanie, merci pour ta commande, bisous, bisous. Mais après voilà, si moi je me dis vraiment que ce petit mot manuscrit, en fait, ce que tu ne retrouveras jamais dans un gros site e-commerce, cette petite attention, effectivement, comme tu dis, le petit goodies, mais qui est utile, qui est pas le truc que tu vas mettre à la poubelle, donc que t'as déjà 150 exemplaires, genre un stylo, un truc, je pense que c'est bon, les stylos on en a assez. Donc le petit truc utile plus un petit mot manuscrit, même s'il est photocopié et qu'il n'y a pas mon prénom, je me dis en fait ça me va, quoi. Et la relation finalement avec le créateur, elle existe à travers ça.
Oui, mais je pense que le produit plus une petite attention et on n'a pas besoin de plus, en fait.
Bon, très bien,
restons simples.
Ouais, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si le mot de l'année 2023 ou des futurs, ça sera sobriété, mais il existe déjà, donc je pense que non, ils vont nous inventer un nouveau mot parce qu'il est pas assez funky, pas assez anglicisé. Mais voilà, perso, ça me tient à cœur qu'on essaye de. Je dis perso, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont engagés et sans doute bien plus engagés que moi, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à passer un cap et que ça devienne en fait normal d'être sobre aussi dans le packaging, dans ce qu'on envoie.
Ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais je pense que de plus en plus de créateurs ont ça à cœur, justement, de faire les choses de manière beaucoup plus responsable que ce qui a pu être fait précédemment. Donc on est sur une bonne voie, après, à chacun avec ses contraintes de faire au mieux. Voilà.
Oui,
que ce soit pour la partie pro ou la partie perso. Donc
Ok, ok, très bien. Eh bien, écoute, c'était hyper intéressant. Si tu devais retenir un moment particulièrement marquant dans toute cette aventure, alors la tête dans les idées ou spécial Griffo, qu'est-ce que tu retiendrais ?
Je pense que je vais garder cette fameuse annonce sur Instagram où, où j'ai eu des tonnes de messages. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas que des particuliers. J'ai été contactée par des boutiques, j'ai été contactée par des éditeurs. Enfin, ça a été vraiment la bascule. Je garde ce moment incroyable.
Ouais, c'est génial. Et est-ce que tu as des nouveautés, des petits projets qui vont sortir comme ça ces prochaines semaines ?
Alors, pendant ce début d'aventure extraordinaire, j'ai été contactée par plusieurs éditeurs. Et à la rentrée, plus précisément le 16 septembre, va sortir un cahier d'activité avec deux nouveaux griffographes exclusifs.
Génial.
Sur le thème de la forêt. Et alors ça, j'en suis très contente parce que, encore une fois, c'est la communauté qui me disait « Ah, ce serait sympa d'avoir quelque chose pour prendre l'outil en main, d'avoir des pas à pas, d'avoir des tutos, des explications. »
Excellent.
Et donc, c'est chose faite, ouais, en septembre. Et donc, c'est un cahier qui fait 160 pages où il y a plein de petites astuces, de dessins à compléter, enfin, plein de petits exercices avec les griffos.
Génial. Et on peut acheter ça où ? Ça va être distribué comment ?
Alors, il sera distribué dans beaucoup de librairies. Ensuite, sur le site de l'éditeur, donc les éditions Ozu, qui le vendent en direct. Et je le mettrai aussi sur la boutique.
D'accord, génial. Voilà. Eh ben, écoute, et c'est toi qui as fait tout le livret ?
Oui.
Ouais,
ça a été génial parce que du coup, on a fait deux nouveaux griffographes sur le thème de la forêt, donc pour dessiner des renards, des ours, des lapins, des oiseaux. Donc déjà, la thématique m'emballait beaucoup. Et après, ça a été énormément de travail d'illustration à faire avec ces deux nouveaux griffos pour pouvoir justement proposer ces petites activités de dessin. Donc ouais, j'ai hâte, ça va être un régal, je pense.
Génial. Eh ben écoute, ouais, c'est un super projet. Et il y en a d'autres un peu comme ça qui vont sortir un peu plus tard ou ?
Non, alors ça, c'est vraiment la grosse nouvelle de la rentrée. Après, de toute façon, moi, je travaillerai sur les déclinaisons des griffographes, donc des nouvelles thématiques à venir. Je peux déjà dire le prochain, ce sera les personnages.
Ouais.
Donc là, une thématique sur laquelle je me suis beaucoup amusée aussi.
C'est j'imagine qu'elle était très attendue.
Donner vie à des personnages. Oui. Les personnages, et j'en ai encore d'autres dans les tuyaux, donc voilà, à suivre.
Bon, et ben écoute, génial. Et ben donc, alors on te suit sur le compte du griffographe, et puis sur la tête dans les idées pour compléter.
Pour ceux qui veulent, c'est pas là où je suis la plus active, mais il y a des jolies choses à voir quand même, donc.
Ouais. Génial. Bon, ben écoute, parfait. Pour conclure, de quoi tu es la plus fière ?
Je suis quand même relativement fière. En fait, c'est assez marrant, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 10 petites vies différentes. C'est que j'ai eu tellement d'activités, tellement de projets, j'ai fait tellement de choses. Je dirais que je suis fière de ça, d'avoir eu une vie créative très riche et aujourd'hui, forcément, de mener à bien ce projet qui était un peu mon rêve. Donc, voilà.
Parfait. Bon, et ben écoute... C'était vraiment hyper intéressant. J'ai qu'une envie, c'est de te dire, mais engage-moi, moi j'ai envie de travailler avec toi, etc., de faire plein de choses.
Génial, mais je ne pensais pas que ce serait aussi facile d'embaucher quelqu'un, dis donc. Bon, ouais, ça c'est fait. Étape suivante, l'international, c'est bon.
Non, mais voilà, si on est comme moi, on se dit, mais tiens, mais j'ai trop envie de travailler avec Hélène, on fait quoi ? On t'écrit ?
Mais venez à moi, les gens, venez à moi. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'y avais pensé en amont. Je me disais potentiellement, peut-être, des gens écouteront et diront « Ah, c'est un projet qui peut m'intéresser. »
Bah, c'est clair.
Voilà.
Et donc, il faut
l'appel
être...
L'appel est lancé.
Il faut habiter dans le coin, plutôt. En Bourgogne, dans Lyon.
Pas forcément, parce que... embaucher, c'est quelque chose qui me fait un tout petit peu peur quand même. Donc,
ouais.
Donc je m'étais dit que dans un premier temps, j'allais certainement collaborer peut-être avec des gens en freelance ou en tout cas à distance, ça pose
voilà, à distance, problème, télétravail.
Dans un premier temps. Donc,
impec, ça marche.
Voilà.
Bon. Alors, si jamais j'ai des collègues qui écoutent, ne vous inquiétez pas, je travaille encore. Et on te dira, mais elle a fumé. Elle travaille encore.
Faites-lui un pot de départ.
Non, non.
Petite banderole, tout ça.
Non, non, mais forcément, moi, ça me donne envie, tout ça. C'est créatif aussi. Hein. Moi, je travaille dans le marketing et la com, c'est créatif.
Eh bien, écoute, ta proposition sera étudiée dans les jours à venir. Je te recontacte. Tu tenais vraiment à ton podcast ou pas?
Ah, bah tu sais, moi, je fais plein de choses.
On peut tout faire en même temps. Ouais, mais oui. Ouais.
Bon. Merci beaucoup, Hélène, pour ton temps. Et puis,
Plaisir.
On va continuer à suivre tes aventures avec grand intérêt.
Oui, bah, là, je suis à la veille du deuxième grand départ. Donc, il y aura sûrement plein d'actu et de nouveautés.
Ouais, génial. Et bien, parfait. Merci beaucoup. À bientôt.
Avec plaisir. À bientôt.
Me revoici. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous invite à aller faire un petit coucou sur Insta, par exemple, à Hélène sur l'un de ses deux comptes, La tête dans les idées ou Griffographe. Ça lui fera sans doute hyper plaisir de savoir que vous l'avez découverte via le podcast ou appris à la connaître un peu mieux si vous la suiviez déjà. Et hasard du calendrier, la sortie de l'épisode coïncide avec la remise en stock des Griffos et la sortie d'un ouvrage spécial Griffos également. Perso, j'ai déjà acheté des pochoirs il y a un petit moment maintenant et mes filles s'en sont vite emparées, c'est vraiment sympa. Si vous venez d'arriver sur le podcast, vous avez plein d'épisodes à écouter sur l'illustration, la couture, l'aquarelle, le travail du papier notamment. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, eh bien c'est trop cool et j'en suis ravie. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de deux manières, en parlant du podcast autour de vous, sur Instagram par exemple, ou de vive voix à vos amis créatifs, et en me soutenant sur Tipeee, en me laissant un pourboire. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif des créateurs. Ce soutien est très important pour moi, parce que au-delà de l'aspect financier, il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Donc un immense merci aux éditeurs qui l'ont déjà fait. Et vous pouvez aussi me donner un coup de pouce avec une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Je ne rate pas un seul commentaire. Alors j'ai pas la possibilité d'y répondre, mais sachez qu'ils me font un bien fou les jours de doute. Et bah forcément, il y en a quelques-uns. Allez, à très vite pour le prochain épisode, et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien, surtout s'il est assez mouvementé. À bientôt.